vous nous rejoignez. L'École des Savoirs, deuxième partie, émission spéciale, 40 ans après mai 68. Quel héritage ! Gabriel Cohn-Bendit est parmi nous, ex-enseignant, mais surtout fondateur du lycée autogéré de Saint-Nazaire. Jean-Paul Brighelli, professeur de lettres. Adriano Farano, jeune journaliste italo-européen et fraîchement diplômé. Mai 68, voilà un thème qui emmerde les jeunes. On l'a constaté dans de récents sondages. Et d'ailleurs, le slogan auquel ils adhèrent le plus, à 86%, c'est justement le moins polémique. Faites l'amour, pas la guerre. 50% d'opinions favorables aussi tout de même pour « Il est interdit d'interdire ». Ce thème de l'autorité dans lequel on bute chaque jour, finalement, dans les milieux scolaires. Alors, nous discutons avec vous, messieurs, de ce qui a changé avec ou sans mai 68. Gabriel Cohn-Bendit, vous le disiez avant le journal. Tout avait déjà changé bien avant mai 68. On rappelle que l'école obligatoire jusqu'à 16 ans est décrétée en 1959 et donc c'est le début de la massification de l'éducation.
Oui. Non, mais en fin de compte, on pourrait fêter un autre anniversaire aujourd'hui, le 200e anniversaire du baccalauréat et de cette institution qui était le lycée napoléonien, copiée sur le collège des jésuites qui avait été créé pour créer une élite. Combattre le protestantisme, hein, cette truc démocratique où on a une relation directe avec Dieu, etc., sans passer par l'Église. Donc, l'Église a mis en place une structure pour créer des gens cultivés qui combattent ça et le respect de la hiérarchie, de l'autorité, du pape, etc. Napoléon a créé le lycée pour créer une élite au service de l'État, pas de la religion, mais dans le même esprit. L'obéissance, c'est vrai, créer des fonctionnaires qui peuvent donner des papons. On obéit à la structure étatique, etc. Nos lycées étaient comme ça. Notre société a bougé. C'est fini. On ne peut plus faire comme ça.
Qu'est-ce qui est fini pour les
cette
profs,
concrètement ? Cette relation de l'autorité verticale. L'autorité, ça se mérite, ça se reconnaît et ça ne s'impose pas comme ça. Je suis le maître, vous avez à m'obéir. On doit se faire respecter. Et quand on est respectable, je prétends que tous les adultes sont respectés. Brighelli dit 17h, moi on m'a mis à genoux, machin, truc, châtiment corporel. Sans dire si ça le scandalisait ou pas. Moi ça m'a toujours... Moi ça me scandalise, et je vais vous dire une chose. Dernièrement, un enseignant a giflé un élève, 40 000 sympathies d'enseignants et tout. Ouf, je suis scandalisé, je vais signer moi une pétition pour dire que je suis scandalisé. Alors,
justement,
par ça.
Je voudrais recadrer pour nos auditeurs.
Moi
à
j'ai jamais
de la
eu besoin
planète.
De gifler pour être respecté. Par des jeunes, y compris les plus contestataires.
Pour nos auditeurs à l'autre bout de la planète, sachez qu'un professeur de technologie dans le nord de la France, en janvier dernier, a effectivement giflé un de ses élèves de 11 ans, qu'il avait traité de connard. Les parents ont porté plainte. L'enseignant José Laboureur a été placé en garde à vue pendant 23 heures. Et il a reçu 40 000 lettres de soutien, y compris une lettre du Burkina Faso. C'est lui qui me l'a dit au téléphone. Aujourd'hui, José Laboureur ne souhaite plus enregistrer d'interview. Je vous propose d'écouter un extrait de sa dernière conférence de presse.
La garde à vue m'a fait beaucoup de tort. J'imaginais pas qu'un geste tel que celui-là puisse m'emmener dans une situation comme celle-là. Pour moi, plaider coupable, j'ai donné une gifle, j'étais coupable. Et en fait, on s'aperçoit que non, quand on écoute un peu tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui est dans le monde enseignant, tous les gens qui m'ont envoyé ces milliers de courriers, le vivent au quotidien. Pour eux, je veux que ce soit public et qu'il y ait quelque chose de fait.
José Laboureur est aujourd'hui poursuivi pour violence aggravée sur mineurs. François Fillon, le Premier ministre, a dit comprendre ce geste de la gifle. Jean-Paul Brighelli, un mot de réaction ?
Je veux dire que l'élève a été viré 3 jours, c'est un minimum. Il va falloir être clair, là.
Vous avez
quand
écrit
même.
À cet enseignant, par exemple, vous, pour
pas,
le soutenir?
Non, je ne l'ai pas écrit. Je veux dire, il se trouve qu'il y a des pétitions syndicales qui ont été mises en place. Alors, ça peut heurter Gabriel Cohn-Bendit. Je saisis très bien ce qu'il veut dire par là.
Mais
ce
vous,
qu'il faut voir, c'est un épiphénomène. Hein, c'est une toute petite anecdote. Ce qu'il faut voir, c'est un élève de 6e qui en est spontanément à traiter son prof de connard parce qu'il lui a demandé de ranger ce qu'il y avait sur son bureau. C'est qu'il y a quelque chose de l'autorité qui s'est drôlement érodée. Alors, moi j'ai horreur de parler de l'héritage de 68 parce que quand j'y pense, ce sont effectivement des anecdotes. Hein, la permission de se maquiller, enfin des choses comme ça. Et je conçois très bien que les gosses actuels n'aient aucune envie de nous voir faire un numéro d'ancien combattant. Mais il y a quand même une chose qui est restée de 68, c'est à partir de l'esprit, on va dire, libertaire, qui essayait de faire sauter le couvercle du gaullisme, de l'autorité la plus formelle qui soit, etc., on a effectivement mis en place une idéologie libertarienne, cette fois-ci, qui a permis les dérives ultralibérales les plus accomplies qui soient. En fait, ceux qui, sans le dire, se réclament le plus de l'héritage de 68, ce sont les ultralibéraux américains.
Ces 40 000 lettres de soutien qu'a reçues cet enseignant qui a donné une gifle, Gabriel Cohn-Bendit, comment vous les percevez ? Ce sont essentiellement des lettres de soutien rédigées par des enseignants, par des profs.
Le problème du droit à l'école, qui me paraît un problème fondamental, que le droit entre à l'école, il n'y entre pas. Un prof signale la faute, condamne et punit. Moi, je suis pour un prof signale tout de suite la faute et il y a une instance qui punit. On ne réagit pas immédiatement par les coups. Si on veut que les élèves ne se cognent pas dans la cour en disant on ne règle pas un différend comme ça, on va devant une instance qu'on a créée à l'école. On dit il a fait ça, je veux lui casser la gueule, on en parle, et si on n'arrive pas à le régler, à la limite, Korczak disait, si le lendemain on n'arrive pas à régler, tu peux lui casser la gueule. Il y a des choses inadmissibles que font et qu'ont toujours fait un certain nombre d'élèves. Moi, ce que j'ai fait subir à certains profs au lycée, 6e 47, il y a un prof qui faisait cours sur un pied, parce qu'on faisait les 24 heures du Mans. On prenait toujours le plus faible et on lui faisait ça.
On lançait des fléchettes sur le tableau pendant qu'il parlait.
Mais bon. 40 000 lettres qui arrivent pour soutenir cette violence.
Oui, il y a aujourd'hui une théorie qui veut que si on les matait, ces petits gamins-là, et s'il le faut avec des coups, il n'y aurait plus de problème, plus de faute d'orthographe. Je dis que c'est pas vrai, c'est pas comme ça. On réinvente l'instauration d'une autorité où on se respecte les uns les autres entre égaux, les uns les autres avec des classes d'âge, mais où les adultes respectent profondément les enfants, et vous verrez que les jeunes respecteront profondément les adultes.
Bon, je pense que l'autorité, elle passe par la réinstauration, on va dire, de la transmission et des savoirs. On a perdu, en quelque sorte, qui faisait le lien entre l'élève et le prof, qui était, effectivement, toute la courroie de transmission qui faisait que le prof était respecté parce qu'il savait quelque chose qu'il donnait à l'élève.
Mais vous comprenez ce ras-le-bol des profs ?
Il existe effectivement, théoriquement, dans chaque lycée, une instance chargée de régler ce genre de choses, mais qui ne fonctionne pas. Il y a eu une démission générale de toute la structure administrative, des chefs d'établissement. On a, depuis une vingtaine d'années, donné systématiquement raison aux élèves. J'ai eu, moi, en classe, un élève qui avait cassé la veille à la mâchoire de sa prof d'espagnol parce qu'elle l'avait touché simplement. Et monsieur, elle pouvait être impure, monsieur. Et le lendemain, il était toujours là, parce que l'administration disait « Ah oui, mais il faudrait voir s'il n'a pas été provoqué. Je rêve là. » C'est ça le climat de l'éducation.
Une anecdote, comme vous dites, mais en même temps, une affaire qui est tout à fait emblématique d'un débat qui est complètement dans son temps, aujourd'hui, 40 ans après mai 68. Adriano Farano, vous n'étiez pas né en mai 68, vous êtes un jeune journaliste italien. Comment vous voyez ça ?
Moi, je pense qu'il y a un problème de gouvernance. J'aimerais aborder tous les aspects du decision-making, on va dire.
De la prise de décision.
Voilà. C'est-à-dire que nous, par exemple, en Italie, ce qu'on a, c'est une sorte de démocratie participative. Ouais, rien à voir avec Ségolène Royal.
C'est à la fois le pays vraiment où règne le cours magistral dans toute sa splendeur.
À l'université.
Mais au lycée, c'est le pays de la démocratie lycéenne.
Oui, voilà. Alors, ça ne marche pas toujours super bien, mais disons qu'au niveau de la classe, vous avez tous les mois 2 heures d'assemblée de classe avec 2 représentants par classe qui sont censés représenter les élèves quand il y a un problème. On discute des problèmes de la classe. Et après, au niveau de l'institut, tous les mois, il y a une journée, une matinée entière d'assemblée d'institut pendant laquelle on ne fait pas de cours et on discute des problèmes, des projets, etc. de l'institut. Attention, ce n'est pas la panacée, ça ne marche pas toujours, il y a des excès, mais ça répond, je pense, au moins en partie à ce problème de gouvernance qui est aussi flagrant.
Zhuhui en français, ça veut dire savoir. 学校, ça veut dire école. Donc, 智慧 de 学校. L'école des savoirs.
L'école des savoirs. Nous poursuivons cette discussion partie de mai 68. Nous sommes aujourd'hui, 40 ans après, en 2008. Jean-Paul Brighelli, Adriano Farano, Gabriel Cohn-Bendit sont nos invités. Alors, c'est vrai qu'après mai 68, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord là-dessus, mais les affrontements sont devenus beaucoup plus idéologiques dans l'éducation, bloc contre bloc, entre à la fois les partisans de l'éducation, les partisans de l'instruction. Est-ce que chacun, vous reconnaissez dans un bloc?
Honnêtement, non. Parce que d'abord,
alors aujourd'hui, on dit les pédagogues et les républicains.
Après 68, il y a eu une mainmise de ce que j'appelle dans mon dernier livre, Fin de récré, les plus idiots des 68 arts. parce qu'il y a quand même eu des 68 heures extrêmement
intelligents.
Il y a une mainmise, comme très souvent après tous les mouvements insurrectionnels, c'est finalement le marais qui récupère en quelque sorte les données. Les instructionnistes, comme on dit, ceux qui se référaient à Condorcet, etc., ont disparu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, en France, l'éducation a été confiée aux pédagogistes. J'en veux pour preuve que l'une des décisions les plus incroyablement démagogiques qui actuellement est revendiquée par la gauche, qui à l'époque l'avait combattue d'ailleurs, c'est le collège unique qui a été décidé par ces deux grands gauchistes qui s'appelaient Giscard d'Estaing et René Haby. La droite a confié l'éducation clé en main à des gens qui avaient des théories très 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 précises, qui s'appuyaient d'ailleurs, pour la petite histoire, sur des pédagogues américains des années 50, hein, à peu de choses près. L'impérialisme pédagogique pénétrait en France, au moment même où aux États-Unis d'ailleurs il était tout à fait.
Gabriel Cohn-Bendit, est-ce qu'on peut simplifier un peu aujourd'hui pour expliquer les différents camps qui en fait transcendent complètement le clivage gauche-droite?
Oui, on trouve des conservateurs à gauche et on trouve des conservateurs évidemment à droite. Et on trouve effectivement des gens, y compris à droite, comme Giscard et Haby, qui ont voulu ouvrir le collège à une demande très grande des classes moyennes, qui avaient envie d'envoyer leurs gosses. Et on peut dire, non, c'est réservé à une autre classe dont les héritiers seront, et vous êtes exclus. Donc, moi je comprends ça, je suis pour le collège unique, je l'ai toujours dit, et je suis contre le collège uniforme. Mais je suis contre toute classe uniforme. Je veux dire, c'est les gosses...
Je suis très content de l'entendre
dire. Aujourd'hui, il y a des gosses, il y en a toujours eu, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, puisque tout le monde va non seulement jusqu'au certificat d'études, mais un peu plus loin, il faut adapter notre enseignement à tout le monde, et ça peut être dans la même classe.
Jean-Paul Rigali, vous êtes complètement d'accord finalement tous les deux?
En un sens, oui. En fait, moi, mon principe, c'est amener chacun au plus haut de ses capacités. Pas au plus haut dans l'absolu, parce que je ne sais pas ce que c'est le plus haut dans l'absolu.
Mais alors pourquoi l'un traite l'autre de gauchiste et l'autre de réactionnaire? Vous ne vous opposez plus sur rien?
Mais si on se pose sur la méthode, je vais prendre un exemple symbolique. Je suis tout à fait pour le rétablissement des estrades à l'école. Pour deux raisons. Une raison bassement pratique. Un peu après 68, le corps enseignant a commencé à se féminiser d'une façon massive. Actuellement, les profs de lettres sont des femmes à 95% en France. Eh bien, je vous le dis, comme la hauteur des tableaux n'a pas été modifiée, elles n'y arrivent pas en haut.
Adriano Farano rigole beaucoup.
Bon, mais ça c'est pour l'anecdote. Mais ce qu'il y a surtout, on a des classes qui ne sont pas faites du tout pour porter la parole. Quand on a 30, moi j'ai 50 élèves par classe, hein, à peu de choses près, si on n'a pas une estrade, en fait si on n'a pas une oblique dans la parole, la voix ne porte pas jusqu'au dernier rang, surtout si on a une petite voix.
Alors c'est un gag.
Troisième point, le plus important, le métier de prof est un métier des arts du spectacle. C'est-à-dire que, je peux vous le dire, quand je suis en cours, je fais du spectacle total. Parce que je vois pas du tout pourquoi mes élèves se feraient suer en classe. Donc j'essaie, d'une façon ou d'une autre, de les amener dans la pièce. Et la pièce, ça peut être aussi bien l'étude effective d'une pièce, et il n'y a pas de raison de s'ennuyer à étudier le CID, que, en ce moment, avec mes élèves de prépa scientifique, l'étude du 18 Brumaire de Louis Bonaparte.
Adriano Farano.
Au lieu des estrades, à mon avis, il faudrait des disques durs, des claviers, des ordinateurs, des écrans, quoi. Aujourd'hui, la relation avec le village global est tout autant importante que celle qu'on peut avoir avec l'entourage le plus proche, et donc avec les gens qu'on a en face de nous, sur les strades, sur le fauteuil ou sur le canapé. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les élèves, eux, sont complètement à l'heure de la société de l'information. Moi, j'ai étudié, parce qu'en Italie, on fait ça beaucoup dans les lycées, le latin et le grec. À mon époque, Internet était encore au balbutiement. Aujourd'hui, je sais que, malheureusement, on copie des versions de latin et de grec sur Internet parce qu'on trouve absolument tout. Alors, arriver à faire apprécier l'utilité d'Internet au-delà du fait que ça peut servir pour copier, mais vraiment pour approfondir, pour avoir du multimédia, pour aller dans le sens de l'interaction, c'est ça que l'école devrait faire aujourd'hui, et malheureusement, je pense qu'elle ne le fait pas.
Adrien, l'Internet n'apprendra jamais à un enfant à lire et à écrire. Surtout en fonction de ce que j'appelle, moi, lire et écrire, c'est-à-dire non seulement l'apprentissage de base, ça c'est la nécessité immédiate, mais savoir lire de façon discriminante. Je prends un exemple. Au programme des sixièmes, en France, en histoire, il y a les civilisations antiques égyptiennes. Si vous tapez pyramide sur un moteur de recherche quelconque, vous allez tomber sur 43 millions d'entrées. J'ai vérifié parce que je l'ai fait. Il y a deux ou trois entrées dès la première page qui sont des sites d'astrologie. Le malheureux gosse qui a 12 ans, et comment est-ce qu'il va apprendre à...
Monsieur Brunet, on fait maintenant des moteurs de recherche et des sites pour la classe. Des enseignants se mettent ensemble pour donner du matériel. La France fait un grand moteur pour que nos amis d'Afrique, etc., ne se perdent pas dans les 42 000. On peut faire ça pour la classe, faire en sorte qu'il y ait du matériel pédagogique sur lequel on va aller, et c'est là qu'on trouvera des choses intéressantes. C'est vrai que Google n'est pas fait pour un élève. On peut créer, nous, des moteurs de recherche. Une chose encore, moi je voudrais dire, une classe est un groupe. Le tableau, le maître devant, c'est vous êtes des petits pois, il y a là quelqu'un, vous écoutez, vous n'êtes aucun groupe, vous n'avez rien à vous dire. Les histoires de table en rond, etc., c'était pour créer un groupe, on travaille ensemble et après même on éclate en plus petits groupes. Moi je trouve que c'est comme ça qu'on acquiert des choses, c'est comme ça que moi j'ai appris des choses avec des groupes
de
copains.
Alors la vraie révolution pédagogique, ce sont les nouvelles technologies et pas mes 60
ans. Alors moi je crois qu'aujourd'hui c'est des technologies et surtout dire on apprend en groupe.
Monsieur Brighelli, au risque de vous choquer, aujourd'hui, savoir lire et écrire, c'est tout aussi important que savoir effectuer une bonne recherche sur Google. Parce que dans une journée, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, un travailleur passe plus de temps à chercher quelque chose sur Google qu'à à lire et écrire.
Non, mais je veux bien, le problème, c'est que ça s'apprend.
Il faudrait savoir
l'apprendre. Les chiffres français, c'est qu'en 6e, il y a 40% d'élèves qui ne savent pas lire.
Est-ce qu'on peut... Pas en Suède, et pas en Norvège, et pas en Finlande.
Ben, c'est pas tout à fait la même population.
Et ils sont protestants, et ils ont d'autres relations avec les élèves, et des élèves entre eux. Et ils ne frappent pas, il y a des lois qui interdisent, y compris les parents, de frapper leurs enfants.
Nous devons rendre l'antenne dans quelques secondes.
C'est un côté Zévaco, là, qui fait l'apologie du protestantisme républicain.
Avant de se quitter, Adriano Farina, vous avez empêché de parler pendant 40 minutes.
En guise de conclusion, j'aimerais bien juste une petite réflexion générationnelle.
Est-ce que vous trouvez que ce sont deux vieux schnocks là?
Pas du tout. Je pense que ce triangulaire est vachement intéressant. Mais notre génération aujourd'hui est une génération qui est plus et mieux engagée que celle de 68. Parce que déjà en 68, c'était une élite qui s'engageait. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait même pas 1 million d'étudiants. Dans les facs, c'était vraiment une petite avant-garde.
Parce que la révolution toujours été faite par des élites, mon cher.
Oui, d'accord, mais il y a aussi un élément très important qui est celui de la politisation. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive au niveau de notre génération avec des causes comme l'Europe, comme l'environnement, et c'est pas un hasard que ça soit aussi des causes de votre frère, par exemple défendues par votre frère, à s'engager d'une façon différente qui n'est pas politisée. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a, je pense, perdu énormément de temps avec des slogans qui n'avaient pas beaucoup de sens au-delà des petits ou grands livres rouges, et qu'aujourd'hui, on est en train peut-être de reconstruire notre vieux continent le renouvelant avec la construction européenne, de penser à une autre façon d'avoir un développement durable et que tout ça, ça compte.
L'Europe, l'environnement. Merci à tous trois. Jean-Paul Brighelli, vous publiez Fin de récré pour une refondation de l'école aux éditions Gasewitch. Gabriel Cohn-Bendit, vous passez beaucoup de temps à travailler pour l'Afrique maintenant avec votre réseau, le REPTA, réseau éducation pour tous en Afrique, www.repta.net. Et Adriano Farano, vous travaillez pour un journal en ligne en 7 langues.
En 7 langues, cafébabel.com.
Cafébabel.com.
Et mon blog, c'est eurogeneration.cafébabel.com.
Voilà, et vous avez encore, vous, une
et
très très longue histoire à écrire.
Tous les deux qui sont plus jeunes, je n'ai pas de blog par contre.
Alors le mien, bonedane.midiblog.com.
Alors vous pourrez l'ouvrir sur Café Babel. Hein.
Merci, d'ailleurs ces micros, il y avait également Jean-Marc Meunier à la réalisation, David Costa à la technique. La semaine prochaine, rendez-vous pour une autre école des savoirs. Nous serons au Mozambique. Émission spéciale réalisée à Maputo sur l'avenir de l'enseignement secondaire en Afrique, alors que la demande d'école ne cesse d'augmenter sur le continent. Au revoir à tous.
Les grenades offensives explosent. Et brusquement, la lumière s'éteint sur le boulevard Saint-Michel.